RCF.
Quatrième volet de notre série sur l'Eucharistie, Eucharistie et mission, Eucharistie et évangélisation, c'est l'axe que nous avons choisi d'évoquer toute cette semaine. En compagnie du père Éric Jacquinet, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes délégué épiscopal à la pastorale sacramentelle et liturgique dans le diocèse de Lyon. Alors quand on pense à la mission ou à l'évangélisation, on se dit que finalement souvent c'est pour les autres, hein, les missionnaires, les religieux ou religieuses qui sont partis dans des pays lointains pour la mission. Vous dites-vous que la mission, ça n'est pas facultatif?
Oui, le Christ a confié à ses apôtres la mission d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. On a ça dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 28. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et l'Église a compris que ce commandement de la mission n'est pas réservé aux apôtres, c'est-à-dire aux évêques et à leurs successeurs, mais à tous les baptisés. C'est le devoir des baptisés d'annoncer l'Évangile.
Alors, l'envoi, ce qui est à la fin de la célébration eucharistique, ça a ce sens-là?
Oui, parce qu'on peut le comprendre comme la messe est finie, vous pouvez rentrer chez vous, ou bien comme aller, aller dans la paix du Christ, aller porter la bonne nouvelle, vous êtes envoyé, vous êtes chargé d'annoncer au monde les merveilles de Dieu. Et donc, on n'est pas dispensé d'aller annoncer l'Évangile dans le prolongement de l'Eucharistie. L'Eucharistie est à la fois ce qui nous rassemble et ce qui nous envoie. C'est le mouvement diastole-systole du cœur. Et donc, on est réunis pour repartir, et pour repartir en particulier d'une façon ou d'une autre, évangéliser, c'est-à-dire témoigner en acte et en parole.
Alors, je reviens justement sur la notion d'annonce. On annonce quoi au monde exactement?
Alors, on n'annonce pas qu'on est les meilleurs, on n'annonce pas qu'on a une communauté paroissiale fantastique, on annonce le mystère même de Dieu, le mystère de Jésus vivant, de Jésus lumière, de Jésus force, voilà. Et on va annoncer, on peut annoncer en particulier les merveilles de Dieu dans l'Eucharistie. Le synode a travaillé sur un texte où il est question d'aller annoncer les merveilles de Dieu dans l'Eucharistie.
Oui, mais c'est difficile quand même de parler comme ça à la société, au monde, aux gens qu'on rencontre, des merveilles de l'Eucharistie. On peut
bien
nous prendre aussi pour...
Des illuminés.
Des illuminés quand même.
Oui, alors je pense que les choses se font progressivement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ça quelqu'un dans le train qu'on ne connaît pas et puis on vérifie que le cœur est ouvert. Il y a des choses qu'on ne peut dire que progressivement. Et puis il y a des gens qui progressivement s'ouvrent à l'Eucharistie. Une histoire très drôle que m'a raconté un de mes confrères, il y a un coup de téléphone à la paroisse, une dame qui l'appelle et qui dit « Voilà, je vous appelle parce que mon chat est malade. Est-ce que vous pourriez venir bénir mon chat ?» Alors, il n'avait pas beaucoup de temps, il dit « Vous en avez, madame. J'ai une idée, madame. Vous pourriez venir mettre un cierge dans l'église parce qu'il y a une statue de Saint-François d'Assise. Il aimait beaucoup les animaux, venez donc confier votre chat à Saint-François d'Assise. » La dame, elle vient, toute simple, la messe, c'est pas son truc, quoi. Mais elle vient mettre un cierge pour son chat. Et puis, par chance, le chat guérit. Et du coup, la dame, elle est très, très heureuse et elle revient mettre un deuxième cierge. Et puis, finalement, elle vient à la messe. Et progressivement, elle vient à la messe, puis elle vient avec une copine. Parce que l'église, c'est bien. Bon. Et donc, cette histoire, elle est drôle, mais elle a fait du chemin. Et le prêtre n'a pas dit à cette brave dame, « Écoutez, votre chat, on s'en fiche, venez donc à la messe. » Elle n'aurait pas pu le comprendre. Et donc, on voit bien que les choses se font dans notre vie progressivement et que dans notre parole, dans ce que nous disons à nos proches, l'invitation à l'Eucharistie, elle ne peut pas être première. L'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne. Donc, parfois, j'aime à dire qu'il faut des petites grimpettes préliminaires avant de faire un sommet.
Bon. Oui, mais est-ce qu'il faut parler ou être parce que c'est aussi on annonce par la manière dont on vit finalement. Est-ce qu'on a besoin de parler explicitement de l'Eucharistie, du Christ ?
Il faut les deux. Effectivement, pendant longtemps, on a réfléchi sur cette opposition. Faut-il être ou dire ? Il faut les deux. C'est-à-dire que est-ce que l'Eucharistie change quelque chose dans notre vie ? Est-ce que nous en vivons vraiment ? Est-ce que nous sommes attentifs à ce que nous vivons ? Est-ce que, comme Jean-Paul II nous y encourageait, nous essayons de faire que notre vie soit eucharistique, c'est-à-dire qu'elle ressemble, elle soit imprégnée de plus en plus de cet acte de louange, d'action de grâce, de demande de pardon, d'ouverture à la parole de Dieu, etc. Est-ce que tout cela nous travaille de plus en plus ? Ça, c'est sûr, c'est une question. Et en même temps, n'attendons pas d'être des saints pour témoigner de ce que nous avons découvert. C'est parce que nous sommes des pauvres et que nous trouvons dans l'Eucharistie notre force que nous avons le droit de le dire. Si à côté de nous, il y a un gars qui crève de soif, on va lui dire où se trouve le robinet d'eau. Et donc, on peut le dire. Sachant que, évidemment, il y a comme des degrés de foi progressivement. Mais que savons-nous de ce que Dieu dira à notre frère dans l'Eucharistie? Je me souviens d'une maman, une petite fille qui a 3-4 ans, et elle a essayé de lui expliquer que Jésus est présent à la messe sous l'apparence du pain. La petite fille, elle ne comprend pas, elle dit « c'est du pain, maman ». Écoute, si tu veux, tu vas demander à Jésus qu'il t'explique qu'il est vraiment présent. Voilà. Et puis un jour, la petite fille, au cours d'une messe, elle fait vraiment cette prière, elle dit « Jésus, montre-moi si tu es vraiment présent ». Et elle s'effondre en larmes, elle dit « maman, j'ai compris que Jésus est vraiment là, et je veux faire ma première communion, et puis je veux être une sainte ». Et donc, la mère de famille avait eu l'audace de pousser la petite fille à poser la question directement à Jésus. Le mystère de l'Eucharistie ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas de savoir qui va comprendre, qui ne va pas comprendre. Un de mes amis, qui à l'époque était un bon loubard avec cheveux longs et plus attaché à la soirée du samedi soir et à son orchestre de rock qu'à la messe du dimanche matin, était venu un jour à une messe et puis il avait été touché par la présence du Seigneur. Et il s'était retrouvé à genoux et il a commencé un chemin de foi. Qui aurait pu le parier? Bon. Donc, voilà. Si c'est pour nous un banquet dans lequel nous trouvons notre nourriture et notre force avec la communauté chrétienne, ben, peut-être qu'on va le dire à d'autres comme une bonne nouvelle. Pas de complexe.
Père Éric Jacquinet, aujourd'hui, dire que l'on agit au nom du Christ, au nom de l'Église, c'est pas forcément bien vu dans notre société actuelle, hein. Notamment quand on dit qu'on appartient aux Églises chrétiennes. C'est difficile.
Oui et non. Oui et non. N'ayons pas le complexe. Quand on relit les Actes des Apôtres, c'est comme ça depuis 2000 ans. Et n'ayons pas peur de ce qu'on risque de penser de nous. C'est la première paralysie, c'est la paralysie de la pieuvre. Alors il y a un nuage de fumée, alors est-ce qu'on peut bouger? Mais soyons nous-mêmes. Moi, j'en parle encore ce midi avec des amis qui connaissent bien l'islam et qui disent « mais finalement, nos amis musulmans à gauche et à droite dans nos circuits, ils attendent que nous soyons nous-mêmes, que nous soyons chrétiens, que nous soyons attachés au Christ et que nous le vivions pleinement et que nous ne le cachions pas. » De même dans les entreprises, si sur votre CV, vous laissez entendre que vous êtes chrétien, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'un patron préfère vous embaucher à compétences égales, parce que il sait que, dans le fond, vous éviterez de piquer dans la caisse et de faire des coups bas à vos collègues de travail.
Mais c'est le genre de choses qu'on peut mettre sur son CV.
Je sais pas comment, mais j'ai des amis qui ont mis clairement qu'ils étaient scouts, par exemple. Ils ont pas mis, je suis catho, je vais à la messe tous les dimanches matin. Mais ils ont mis, je suis scout, ou j'étais actif dans le scoutisme. Donc, voilà. Bon. Et si en face, l'interlocuteur était pas fermé et agressif, il pouvait comprendre qu'il y avait des valeurs derrière. Donc moi, je pense que, c'était un homme d'entreprise qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais n'en ayons pas honte. C'est pour nous une force. Et en fait, un certain nombre de gens autour de nous nous admirent. Il faut pas rêver. Si nous vivons en cohérence, évidemment. Et donc, c'est un appel à la conversion pour nous. Mais n'ayons pas de complexe de ce qui fait notre joie et notre force.
Alors, la force, justement, d'où nous vient-elle cette force pour dire au monde la bonne nouvelle du Christ?
Alors, sans doute qu'effectivement, nous l'appuyons dans l'Eucharistie. C'est que le texte préliminaire au synode le dit, que dans l'Eucharistie, nous allons trouver la force de témoigner, parce qu'effectivement, il faut quand même le dire, il y a un certain nombre de fois où le témoignage réel et explicite et engagé n'est pas reçu. Je crois qu'il faut le dire, c'est clair. Ce serait ne pas rendre hommage à tous ceux qui, non seulement les martyrs, mais tous ceux qui luttent, qui peinent dans des situations d'opposition.
Dans certains pays, notamment, aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. Mais même aussi en France. Moi, j'ai des amis qui ont été licenciés parce qu'ils étaient cathos et que dans l'entreprise informatique où ils travaillaient, ils voulaient pas travailler pour des sites porno. Bon. Et donc, ils se sont fait licencier. Donc, c'est quand même, c'est un combat réel à mener. Et, cette force pour être fidèle au Christ, fidèle à lui, dans nos actes et dans nos choix, et accepter, y compris les calomnies ou les vexations à cause de Jésus. Nous la trouvons entre autres dans l'Eucharistie, bien sûr. L'Eucharistie est une force. Là, on a eu des témoignages bouleversants ces dernières années. Je pense en particulier au Vietnam, où des chrétiens emprisonnés pouvaient célébrer la messe avec un prêtre et trouver dans cette Eucharistie la force pour pardonner à leur bourreau, pour rester fidèles. Bon, enfin, dans toutes les périodes de persécution, l'Eucharistie a joué un rôle important. Et de fait, nous pouvons trouver aujourd'hui dans l'Eucharistie la force dont nous avons besoin.
On voit le lien entre Eucharistie là et mission, hein. On n'est pas en dehors du monde, le lien dont on parlait au début de cette semaine.
Bien sûr. Il y a un autre lien qui me tient à cœur aussi, c'est le service des pauvres. Pier Giorgio Frassati, qui a été béatifié, disait qu'après la messe, il allait rendre à Jésus sa visite. Et alors ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire « Jésus m'a visité, je vais aller visiter à mon tour en allant visiter dans les pauvres ». Et Jean-Paul II le disait « N'oubliez jamais que le Christ qui vient à nous sous les espèces consacrées est le même qui vient à notre rencontre dans les événements de la vie quotidienne. Il est le pauvre qui tend la main. Il est dans celui qui souffre et qui implore de l'aide, etc. Il est le frère qui me demande d'être disponible et qui attend notre accueil. » Donc être missionnaire, c'est aussi nourri par cette rencontre avec le Christ, aller le rencontrer en le servant et en servant les plus pauvres et ceux qui ont besoin de nous. Et Mère Teresa disait, notre Eucharistie est incomplète si elle ne nous conduit pas au service et à l'amour des pauvres.
Père Éric Jacquinet, nous terminerons demain cette série.